9h21, c'est connu, les Québécois aiment voyager. Peut-être avez-vous décidé de prendre la direction des stations balnéaires du Sud au courant des prochains mois, des prochaines semaines, ou tout simplement aller visiter certains coins de l'Europe ou de l'Amérique que vous n'avez toujours pas vu. On dit que c'est environ 40% des Québécois qui vont faire du tourisme à l'étranger. Et il y a plusieurs aspects que je voulais discuter avec notre prochain invité qui s'y connaît. Il est le cofondateur de flytrippers.com, Andrew Damour. Bonjour, Andrew.
Bon matin.
Parlons tout d'abord des destinations de tendance 2019, parce qu'il y a, on a l'impression que les Québécois sont plus aventuriers. Je parlais avec quelqu'un de la chaire de tourisme de Transat qui nous disait qu'on l'était beaucoup moins que ce que ça donnait comme perspective. Il y a encore des classiques, là. Cuba, République dominicaine, le Mexique, c'est ce qui va encore le plus.
Oui, effectivement, on a des hivers tellement horribles, donc les destinations soleil sont très, très populaires. Mais oui, comme je pense que tu l'as dit, je pense que les gens voyagent de plus en plus à l'international pour découvrir des pays, plus pour combiner à des vacances, des fois se reposer, mais aussi explorer puis faire des belles découvertes. Donc, il y a beaucoup de destinations, par exemple, en Europe qui sont moins touristiques, que les gens se mettent à découvrir, comme la Roumanie dans l'Est, qui n'a jamais été vraiment une destination super populaire pour les Québécois, mais qui est en croissance avec des beaux châteaux, qui a comme rien envié à l'Europe de l'Ouest, mais qui est beaucoup plus abordable aussi sur place, donc des places comme ça.
Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez Flytrippers? Est-ce que vous voyez justement des plus de curiosité ou encore le refuge habituel, là?
Je pense que les gens combinent souvent. Tu sais, l'hiver, ils vont faire un voyage dans les tout-inclus, souvent.
Ouais.
Mais ils se gardent au moins un autre voyage dans l'année pour aller découvrir, donc, que ce soit l'Europe, l'Asie. Nous, on repart des deals de billets d'avion, donc on fait ça. Puis c'est pas mal toujours pour des destinations à l'international. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de curiosité. Puis les gens, tout le monde veut voyager. Il y en a qui sont des fois un peu incertains, insécures par rapport à, surtout si c'est un premier voyage à l'international, là, il y a des appréhensions. Mais je pense que de plus en plus, les gens réalisent que c'est beaucoup plus simple qu'on le pense de voyager.
Tu as parlé de la Roumanie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça qui ressortent un peu, là, qui semblent être, où il semble y avoir une popularité ici?
Oui, ben sinon, les classiques comme le Portugal, à chaque année, on dit quasiment c'est depuis 3 ans que c'est Portugal qui est une destination tendance, mais ça va continuer. On s'attend à ce que ce soit une destination super populaire pour cette année. En Asie, il y a le Cambodge qui est de plus en plus populaire parce que la Thaïlande, le Vietnam, les gens connaissent un peu plus, donc ça, c'est un petit peu moins touristique. Il y a des pays comme au Sri Lanka, qui est une alternative à l'Inde, qui est vraiment de plus en plus populaire. Donc, côté exotique, les gens recherchent un peu plus de ces destinations-là.
Tu l'as dit, vous spécialisez justement dans la recherche d'aubaines ou de deals sur les vols à l'étranger. Les compagnies aériennes, ce qu'on appelle les ultra low cost, des compagnies bon marché, puis tu me corrigeras si je fais erreur, là, mais des ultra low cost, on n'en a pas ici au Canada, d'opérations canadiennes, là, je parle. Là.
Oui, on est rendu avec deux. Mais
ah oui?
Ils sont juste pas au Québec, mais ils sont au Canada. Là. Donc,
okay.
On est rendu avec deux domestiques ultra low cost. C'est à peu près temps, là, parce que c'est une des raisons pourquoi le Canada avait les billets d'avion les plus chers d'à peu près tous les pays, parce qu'on n'avait pas de compagnie ultra low cost. Ça, c'est tout récent, c'est depuis 2018.
Il y a une filiale de WestJet, je pense,
Il y a une filiale de WestJet qui s'appelle Swoop, puis il y en a une autre qui s'appelle Flair, qui est dans l'Ouest aussi, beaucoup, en Ontario aussi, là, mais je veux dire pas au Québec, malheureusement.
Je regardais entre autres pour Swoop, ils ont plusieurs vols à partir de petits aéroports.
Oui.
Est-ce qu'ils ont des plans pour le Québec éventuellement?
C'est une question que j'ai posée au PDG quand on est allé pour le vol inaugural.
Ouais.
On a été invité justement. Puis évidemment, ils savent qu'il y a un gros marché au Québec, que les gens sont habitués aussi de payer très très cher pour les billets d'avion ici. Donc ils ont un intérêt, mais ils n'ont rien confirmé encore.
Et parlant justement d'ici du Québec, on avait parlé de projets pour l'aéroport de Saint-Hubert à un certain moment. Pour des voyageurs qui sont un peu tannés de se rendre vers Pierre-Éliott Trudeau, on sait qu'il y a les frais d'aéroport qui viennent avec ça, mais les coûts aussi qui sont un peu plus dispendieux. L'accessibilité à l'aéroport lui-même n'est pas facile. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est avancé? Est-ce que ça peut être une porte, ça, pour Swoop, éventuellement? Là?
Oui, c'est un modèle qui est éprouvé dans tous les pays, ou presque. Toujours des grandes villes ont toujours un aéroport principal international qui se doit d'être beau, d'être invitant, puis d'être, nécessairement plus cher parce qu'il y a des infrastructures. Mais habituellement, toujours aussi un aéroport ultra low cost pour les gens qui, comme moi, par exemple, ou des voyageurs qui veulent juste payer moins cher pour pouvoir voyager plus, d'avoir cette alternative-là, avoir des compagnies aériennes ultra low cost qui peuvent offrir des billets moins chers avec une structure de coût qui est beaucoup plus basse. Dans des aéroports comme Saint-Hubert, il y a définitivement un potentiel. Il n'y a rien d'annoncé encore, à part il y a eu une annonce, mais c'était pas vraiment formel. Donc, on a hâte de voir si ça se développe, parce que C'est une belle opportunité pour les voyageurs de Montréal et de la grande région.
En parlant justement des ultra low cost, c'est tellement populaire ailleurs dans le monde. En 2017, la deuxième plus grande compagnie aérienne en Europe est un ultra low cost. C'est Ryanair qui opère à partir de l'Irlande et qui est partout sur l'Europe. C'est quand même gros. Là. Ils sont en avant d'International Air Group. Ils sont en avant d'Air France KLM. C'est majeur.
Ils ont transporté à peu près 3 fois plus de gens qu'Air Canada, là, pour donner une idée. Là. Donc, c'est énorme. Puis, dans le monde entier, c'est un passager aérien sur 3 qui est sur les compagnies ultra low cost. Donc, ici, on connaît pas ça. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions, encore une fois, la peur de l'inconnu. Mais c'est pas nouveau, là, le concept ultra low cost. On n'a jamais eu ici, mais ça fait 20 ans que ça existe en Europe. Tous les pays du monde, à peu près, ont leur compagnie ultra low cost, puis c'est un passager sur 3. C'est énorme. Là. C'est des centaines de millions de personnes qui voyagent de cette façon-là dans le monde. Puis ça va juste en aller en croissance. Donc, il faut commencer à s'habituer, puis on espère que ça va venir au Québec.
Qu'est-ce qui est la plus... parce que souvent, quand on parle de voyage et tout ça, puis j'en parle à l'occasion aussi à Weekend Extra la fin de semaine, c'est quoi la... Je vois un peu les récriminations des gens qui ont cette crainte-là. Wow, le fait à partir de Montréal, destination l'Islande automatique. Là, vous n'avez pas le choix de passer par là pour vous rendre en Europe. Quand même, ça paraît, là, pour l'avoir fait à quelques occasions, là, c'est quand même beaucoup moins dispendieux qu'utiliser une compagnie régulière. C'est quoi les plus grandes appréhensions que les gens vous demandent? C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent là-dessus?
Il y a plusieurs mythes sur les compagnies ultra low cost. Premièrement, comme quoi il y a des frais cachés. Il n'y a aucun frais caché. Il y a des frais optionnels parce que c'est ça, le modèle d'affaires, c'est à la carte. Donc, si vous voulez pas payer plus, vous payez pas plus. Simplement, moi, j'ai pris 100 vols sur des compagnies ultra low cost dans ma vie. J'ai jamais payé un sou de plus que le frais de base le plus bas. Parce que je comprends le concept, je veux pas payer plus. Donc, il y a des frais pour
tout ça. Faut voyager léger.
Exactement. Il faut voyager léger à base. Il faut pas s'attendre à un repas. C'est vraiment à la carte. Donc, si vous voulez pas amener vos collations, faut payer plus. Donc, c'est vraiment le concept du ultra low cost pour donner le choix aux consommateurs ou voyageurs. S'ils veulent pas payer cher, il y a l'option. Je suis allé en Europe pour 247 $ aller-retour avec Wow. Là, c'est vraiment ridicule comme prix. Là. C'est moins cher qu'à Toronto. Donc, il y a vraiment moyen de voyager pas cher. Ça vient avec justement les restrictions qu'il faut comprendre. Puis quand on les comprend, l'expérience à bord est tout à fait similaire à n'importe quel autre vol. Il n'y a pas vraiment de différence. Ça, c'est un des gros mythes. Les gens pensent que c'est des vieux avions, vu que c'est pas cher. Au contraire, les flottes d'avions les plus récentes, c'est les compagnies ultra low cost qui les ont parce que c'est plus efficace pour le carburant et pour la maintenance. Donc, des avions flambant neufs, le service à bord, je vois pas de différence. Comme je dis, j'ai pris 100 vols. C'est vraiment des appréhensions qui viennent du fait qu'on connaît pas ça puis qu'on a moins eu l'expérience de voyager sur ces compagnies-là ici au Québec. Mais c'est vraiment une expérience similaire à ce qu'on connaît sur les autres compagnies.
Peut-être une mise en garde, parce que on parlait de Wow, justement, qui le font par l'Islande. Pour les gens qui voyagent l'hiver, par exemple, peuvent avoir une méchante surprise parce que rendu en Islande, étant donné qu'on est dans le cercle polaire, là, évidemment, là, c'est pas automatique que le vol que vous reprenez subséquemment vers l'Europe, lui, va repartir, par exemple. Ça peut être un des problèmes. As-tu été confronté à ça?
Ça peut arriver. Moi, j'ai pris 12 vols sur Wow. Je n'ai jamais eu un d'annulé ou de cancellé ou de retardé même. Donc, ça peut arriver avec toutes les compagnies. Je pense pas que ce soit nécessairement plus fréquent avec Wow. Ce qui est le problème avec les compagnies ultra low cost, c'est un des mythes qui est vrai et qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand il y a un retard ou quelque chose comme ça, les vols sont moins fréquents. Donc, là, c'est plus long avant de se faire replacer comparé à Air Canada. Quoique, des fois, ça peut. Ça peut être aussi pire, là, mais ça dépend vraiment là, de qu'est-ce qui arrive. Mais juste pour donner un exemple, en Amérique du Nord, en novembre, ils ont sorti des statistiques de ponctualité. Ouais. C'est une compagnie ultra low cost qui était la première. Air Canada était dernier en fonction de toutes les compagnies aériennes majeures en Amérique du Nord. Puis c'était une compagnie ultra low cost, Spirit, aux États-Unis, qui était premier en ponctualité. Puis ils vendent des vols à 20 $ des fois. J'ai déjà pris plusieurs vols avec eux à 20 US. Puis pourtant, c'est la plus
ponctuelle. À partir d'où, ça?
C'est à partir de Plattsburgh qui sont eux autres.
20 $.
Oui, et ça fait un petit bout.
On s'en va où, dans le stationnement, quoi?
Non, en Floride. Donc, j'étais 20 $ en Floride. C'est plus aussi fréquent. En fait, je n'en ai pas vu depuis 2 ans. Ces prix-là, c'était vraiment un des prix de lancement. Mais maintenant, on peut souvent en trouver autour de 150 $ US et même moins, là. Donc, c'est quand même pas cher.
Est-ce que dans les choses, et peut-être une vigilance, pour l'avoir vécu, là, heureusement, ça n'a pas été une surprise, mais j'ai vu des gens sur mon vol pour qui c'était une surprise. Ces compagnies-là amènent à des... On vous dit une destination, mais c'est pas automatique qu'on vous amène proche de la destination. Je vais prendre l'exemple de Ryanair, là, pas tourner autour du pot. Là. On vous donne un vol, exemple, vous achetez un vol pour Francfort en Allemagne. Et vous êtes à 2h30 de Francfort. Ouais. J'ai vu des gens qui avaient acheté un vol pour Prague. Ils se sont retrouvés à Bratislava. Ils sont même pas dans le même pays. Mais ça, c'est, ouais. ça arrive.
Oui, ça fait partie du modèle, comme on parlait tantôt, les aéroports secondaires. Eux, Ryanair sont reconnus pour ça à l'extrême, même que leur aéroport de Milan, c'est à Bergamo, qui est très, très loin de Milan. Puis la ville de Milan les a actionnés, ou en tout cas, ils voulaient,
ah, oui.
ils parlaient d'aller en cours parce que c'est trompeur, une publicité trompeuse de dire que c'est à Milan quand c'est pas à Milan. Ça fait partie du modèle. Mais dans le cas de Ryanair, par exemple, en Europe, pour l'avoir fait puis avoir pris plusieurs vols en Europe vraiment pas cher, souvent en additionnant le prix d'un autobus de l'aéroport secondaire à la ville en question, ça reste que c'est vraiment pas cher. J'ai pris des vols à 10$ en Europe sur Ryanair. Je peux donner une idée, là. 10$, c'était tout compris, taxes inclus. Puis bon,
incroyable.
Le bus pour se rendre à l'aéroport, des fois, est plus cher que le billet d'avion, mais ça reste que c'est vraiment pas cher.
Parlons justement, donc ça, on surveille ça pour les choses à venir. Il y a des... on parlait de la charte des passagers qui va arriver, qui va aboutir. Il était temps que ça se fasse quand même, là. Puis peut-être qu'on se défendrait chez Air Canada en disant que c'est à cause des conditions météorologiques. Hier, un auditeur nous racontait sa mésaventure pour les îles de la Madeleine. Il part samedi matin, 7h30. On lui a parlé hier matin à 8h. Il était dans son auto direction la Nouvelle-Écosse pour aller prendre l'île du Prince-Édouard pour tenter d'aller prendre le traversier pour les îles. Ça n'a aucun sens.
Oui, bien, dans ce cas, ça, c'est un cas extrême. Là. Je veux pas défendre Air Canada nécessairement, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça peut arriver. Je veux dire, on n'est pas à l'abri
de ça.
Ils ne
sont pas responsables des conditions météorologiques.
Ils ont mal géré ça, clairement. Là, il y a eu un manque de communication, gestion de l'incident, tout ça. Ça reste que, bon, ça, c'est la météo québécoise et canadienne. Il y a souvent des hivers, des tempêtes hivernales qui font que ça permet pas d'atterrir pour des raisons de sécurité, comme eux. Évidemment, ils ont complètement botché bon, le reste là, tout autour, puis la prise en charge, si on veut. Puis ce genre de choses-là, on espère, c'est quelque chose qui va pouvoir être compensé, avoir au moins des indemnisations. Mais ce qui est pas clair en ce moment dans la charte, c'est que, premièrement, c'est pas final, il y a encore des consultations. Puis il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a pas beaucoup, puis je suis de cet avis-là, qu'il y a pas vraiment beaucoup de mordant non plus là-dessus. Parce que ce qu'il faut comprendre, par exemple, délai et retard, l'indemnisation, c'est super beau sur papier, puis ça fait des belles annonces. Mais quand on regarde le détail, quand c'est la météo, c'est
exclu. C'est pas un sujet de type. C'est compréhensible.
Ça, c'est compréhensible. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est pas la faute des compagnies aériennes. Ils peuvent pas payer pour ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que les ennuis mécaniques sont considérés comme étant pas de la responsabilité de la compagnie aérienne.
Ouais, ça
ce qui fait un peu moins de sens. Parce que là, si t'enlèves les retards météo, les retards mécaniques, il n'y a plus beaucoup de sources de retard qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir réellement une compensation là, pour les passagers.
Vois-tu beaucoup de demandes pour du voyage solo, Andrew Damour de FlightTrippers.com?
Oui, ben en fait, dans le monde entier, c'est en hausse. Il y a même un sondage récemment, là, quelque chose comme 40% des gens sondés avaient une intention de faire un voyage solo pour tous les bienfaits que ça a. Au niveau personnel, mais aussi parce que, on le dit souvent, c'est... En fait, le meilleur moyen de pas voyager, c'est d'attendre après quelqu'un pour voyager, parce que souvent, c'est difficile d'organiser des voyages en groupe ou ça, en couple, c'est un peu plus facile, mais en groupe d'amis, donc, des voyages solo, ça permet justement de découvrir des nouveaux endroits différemment. C'est une belle expérience, j'en ai fait plusieurs. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas nécessairement... Vous êtes pas seul pendant 3 semaines si vous allez en voyage, si vous rencontrez d'autres voyageurs, des gens locaux, donc il y a moyen de justement se faire des nouveaux compagnons de voyage.
Je voyais en lien, on a un événement malheureux qui touche une Québécoise au Burkina Faso, des gens qui sont allés vers le voyage là-bas. Elle était avec un compagnon de voyage. La thèse de l'enlèvement est là. Il y a des avis qui sont émis par le gouvernement canadien, souvent pour des pays. Est-ce qu'il faut prendre ça au pied de la lettre ou des fois, parce que j'en ai vu passer de temps en temps, puis c'est on a l'impression qu'on sortirait jamais du pays.
Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je veux pas minimiser les risques. Il faut faire attention. Puis tout le monde a une tolérance aux risques différentes aussi.
Ouais.
Mais les avertissements du gouvernement canadien sont assez reconnus comme étant très alarmistes dans le sens que, effectivement, tu dis ça, ça donne peur. Ça fait peur à tout le monde, mais c'est pas nécessairement vrai que on peut pas aller dans ces pays-là. Il y a des pays où ce que le niveau de risque, justement, ils disent de faire preuve d'une grande prudence. Mais tu sais, ça, c'est comme...
Les gens
prennent ça pour comme « Ah, faut pas y aller », c'est pas tout à fait ça. C'est juste que, faut faire un peu plus attention qu'ici, par exemple.
Mais je vais te donner un exemple. Ce matin, il est dans le journal, d'ailleurs. On parle de Playa del Carmen. Il y a eu une fusillade dans un bar. On sait que le Mexique a des problèmes de violence. Playa del Carmen, c'est un endroit hyper touristique. Et on dit « Les gens devraient pas sortir de leur tout-inclus ou à tout le moins d'être extrêmement vigilants ». Est-ce que tu déconseilles à quelqu'un qui va dans une station balnéaire comme celle-là de y aller par lui-même puis de s'organiser? Ou tu n'as pas le choix, tu es mieux d'y aller avec le tout inclus?
Moi, je ne peux pas parler avec le Mexique parce que je suis jamais allé. Je ne veux pas partager mon expérience parce que, Mais ce que je sais, c'est qu'on a beaucoup de lecteurs sur notre site qui nous commentent puis qui partagent leur expérience puis qui disent qu'ils ont été au Mexique sans aller dans les tout inclus. Puis encore là, ça revient à faire preuve de prudence, faire du gros bon sens. Mm-hmm. Puis bon, il y a moyen. Évidemment, le Mexique, c'est un des pays qui est plus touché en ce moment avec des épisodes de violence comme ça. Par contre, il y a quand même moyen, si on fait attention, de visiter en sachant justement quel quartier, en faisant des recherches, en sachant quels quartiers sont plus chauds. Et ça le disait, j'ai lu le même article que toi, puis il disait que c'était justement un quartier vraiment pauvre qui était reconnu comme étant un peu dangereux, puis qu'il n'y a pas de touristes là. Tu sais, c'était un endroit que, évidemment, si tu vas là, c'est plus risqué, mais sachant où aller, comme dans les endroits de la ville qui sont plus touristiques et plus publics et non pas résidentiels, c'est-à-dire, mais il y a quand même moyen de faire attention puis d'explorer un pays sans danger.
Je veux y aller assez rapidement parce que les mêmes questions reviennent un peu tout le temps. Là. C'est... Est-ce que les aubaines de dernière minute, ça existe encore, ça, oui ou non?
Ben, ça dépend de ce qu'on parle. Nous, on n'est pas vraiment dans le tout inclus. On parle plus de voyages, des vrais voyages. Dans le tout inclus, je pense que ça existe encore parce que justement, ils ont des avions et des hôtels à remplir. Pour ce qui est des vols, quand on parle de faire un vrai voyage là, à l'international, ça n'existe pas vraiment parce que les gens, habituellement, ils attendent à la dernière minute, c'est parce qu'ils sont mal pris. Donc, les vols dernière minute, c'est pas vrai que ça va venir moins cher. À part justement vers des destinations vraiment balnéaires comme loisirs où il n'y a pas de voyageurs d'affaires, par exemple, comme le Mexique, tout ça, là, ça peut arriver. Mais en général, c'est mieux d'acheter d'avance.
C'est quoi la meilleure aubaine ces temps-ci, là?
Ah ben aujourd'hui, il y a une grosse vente pour l'Asie. Donc, ceux qui sont intéressés à l'Asie du Sud-Est, 578 $ aller-retour, là, c'est vraiment, mais vraiment pas cher pour aller en Asie. C'est aux Philippines.
À partir d'où?
À partir de Montréal. Donc, sur une compagnie normale, là, c'est pas ultra low cost. Ça, je veux le mentionner parce que beaucoup de gens pensent que vu qu'on promouvoit souvent les ultra low cost, mais en fait, il y a juste vers l'Europe de Montréal qui a des compagnies ultra low cost ici. Donc, toutes nos deals sont sur des compagnies régulières. Donc, ça inclut tout ce que vous êtes habitué. Donc, les compagnies traditionnelles vers l'Asie, il y a aujourd'hui les Philippines, le Japon, la Corée. Donc, il y a un très bon spécial. Mais ça, il faut comprendre que ça change à tous les jours. Donc, si c'est bon là, aujourd'hui, si vous arrivez pour le réserver demain, il y a des bonnes chances que ce soit plus là. C'est vraiment des 40 50 % de rabais. Donc, ça dure pas longtemps.
Et question d'un auditeur concernant les ultra low cost, la place pour les jambes?
Même chose que les compagnies régulières. De toute façon, les compagnies, c'est eux qui ont parti la tendance vers la baisse, mais les compagnies régulières ont presque tout suivi. Okay. Donc, un centimètre de moins, un pouce de moins ou deux pouces maximum de moins, mais c'est similaire.
Andrew Damo, merci infiniment d'être venu nous visiter. Je rappelle qu'il est cofondateur de flytrippers.com. Merci. Salut bien. Bon voyage. 9h38. Dans les prochaines minutes, on ira rejoindre Annie Guilmette puisque Gilbert Rozon s'est présenté aujourd'hui au Centre opérationnel Est de la police de Montréal pour donner ses empreintes digitales. Et on se parlera également de l'industrie du foie gras.